Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Chaque dialogue avec Dieu est une grâce. Le pape François a poursuivi ce matin son cycle de catéchèse sur la prière lors de l'audience générale. Depuis la bibliothèque du Palais apostolique, le Saint-Père a surtout médité sur la vocation de la prière comme porte d'entrée à la Sainte Trinité. Le compte-rendu signé Delphine Allaire.
La prière nous ouvre à la Trinité, à la mère immense de Dieu. Mais comment prier? Par quels mots, sentiments, langage? A questionné François avant de répondre. Dieu regarde en effet les mains de celui qui prie, et pour les rendre pures, il ne faut pas les laver, mais plutôt s'abstenir de mauvaises actions. Car dialoguer avec Dieu est une grâce, et si nous n'en sommes pas dignes, que nous boitons avec chaque parole et pensée, Jésus est à chaque fois une porte qui s'ouvre.
Noi non avremmo mai avuto il coraggio di crederlo se non avessimo conosciuto Gesù.
Nous n'aurions jamais eu le courage de croire à un Dieu qui aime l'homme si nous n'avions pas connu Jésus, a affirmé François, expliquant à quel point il s'agit d'un fait incroyable comparé aux anciennes divinités mythologiques, aux dieux qui faisaient bien peu de cas de l'homme. Quel Dieu est en effet disposé à mourir pour l'homme? Quel Dieu aime patiemment, sans prétention d'être aimé en retour, interroge le pape. Nous imaginons difficilement cet amour dont la Sainte Trinité est riche, assure-t-il. Nous sommes le terme d'un amour qui n'a pas d'égal sur la terre et nous ne pouvions vraiment pas espérer de plus haute vocation, conclut le souverain pontife, à savoir l'humanité de Jésus qui a rendu la vie de la Trinité elle-même disponible pour tous.
Delphine Allaire, un compte-rendu à retrouver sur notre site internet. À l'issue de l'audience générale, le Saint-Père a demandé la libération des centaines de prisonniers politiques incarcérés après le coup d'État du 1er février dernier en Birmanie. Les manifestants qui continuent à descendre dans la rue, malgré un recours plus fréquent à la force létale. Le pape attire aujourd'hui l'attention des autorités sur le fait que le dialogue doit prévaloir sur la répression. Il appelle la communauté internationale à veiller à ce que les aspirations des Birmans ne soient pas étouffées par la violence. À Hong Kong, 47 manifestants pro-démocratie, figures de proue de la contestation, ont comparu aujourd'hui, accusés de subversion, leur troisième jour d'audience. Il s'agit du groupe le plus important poursuivi à ce jour au nom de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin à l'ancienne colonie britannique. Exécution de 3 Irakiens condamnés à mort pour terrorisme ce matin dans la prison de Nasiriyah au sud de l'Irak. Depuis la victoire sur Daesh en 2017, des centaines d'Irakiens sont ainsi promis au même sort, à la peine capitale. Selon un décompte de l'AFP, au moins 30 exécutions ont eu lieu l'an dernier. L'Irak, où au moins 10 roquettes se sont abattues sur la base aérienne d'Ain al-Assad à l'ouest du pays. La base abrite des soldats des drones américains de la coalition anti-djihadiste. Un civil est décédé d'une crise cardiaque à cause de cette attaque, 2 jours avant la visite historique du pape dans ce pays, le berceau du christianisme. À l'issue de l'audience, le pape a prié tout à l'heure pour que son voyage se déroule dans de bonnes conditions. Les bombes ou la pandémie ne l'ont pas fait reculer, 20 ans après la venue annulée de Saint Jean-Paul II pour des raisons de sécurité. Le Saint-Père a rappelé aujourd'hui l'importance de ce voyage apostolique auprès d'un peuple souffrant, d'une église martyre. Il espère que cette visite porte les fruits espérés d'un pas de plus accompli vers la fraternité entre croyants, dans notre dossier en fin de journal focus sur la minorité yézidi. L'Arabie saoudite n'a plus le soutien total de Washington, mais continuera à pouvoir acheter des armes au Royaume-Uni, et ce malgré la guerre menée depuis 2015 au Yémen devant le Parlement. Le Premier ministre Boris Johnson, sous le feu des critiques, y compris de son propre parti, a justifié tout à l'heure sa politique qui consiste aussi à voir abaisser et drastiquement l'aide au développement promise aux Yéménites. De 200 millions de livres en 2019, elle passe à 87 cette année. Londres aidera moins les Yéménites, mais continuera à soutenir les Britanniques mis à mal par la pandémie. Il y aura des hausses d'impôts pour les grandes entreprises, mais le chancelier de l'échiquier a dévoilé un budget prévoyant le maintien d'aides massives aux PME et à l'emploi, avec notamment une prolongation jusqu'à fin septembre du système de chômage partiel. Le PIB britannique a chuté de 9,9% l'an dernier à cause de la pandémie. Celle-ci a tué 123 000 personnes dans le pays. L'Église priait hier pour les défunts lors d'une messe de commémoration à Londres. En Allemagne, à 7 mois des législatives, la première force d'opposition à la CDU et aux sociaux-démocrates, le parti d'extrême droite Alternatif pour l'Allemagne, a été mis sous surveillance policière par le renseignement intérieur. L'AFD est accusée d'avoir atteint à l'ordre démocratique. À Berlin, Delphine Herbollier. La décision était attendue et surprend peu. L'AFD entre désormais dans la catégorie très peu prisée des groupes suspectés de liens avec l'extrême droite. Les services de renseignements intérieurs fédéraux peuvent désormais mettre sur écoute ses membres, lire les emails et infiltrer des informateurs dans ses rangs. Cette décision confirme la radicalisation croissante de cette formation, première force politique d'opposition au Bundestag, mais souvent accusée d'antisémitisme et de racisme. À l'origine, en 2013, l'AFD n'était qu'un parti eurosceptique, mais avec la crise migratoire de 2015, il a glissé très à droite et est désormais sous la coupe de son aile radicale. Elle-même est mise sous surveillance policière depuis un an. Cette décision tombe au plus mauvais moment pour l'AFD. L'année 2021 est remplie de rendez-vous électoraux dans les régions, mais aussi au niveau national. Une mise sous surveillance pourrait lui coûter cher électoralement. Le parti voit d'ailleurs dans cette décision une tactique visant à lui nuire. Berlin, Delphine Narbolier pour Radio Vatican.
En France, après la dissolution de trois associations accusées d'être proches de la mouvance islamiste ces derniers mois, le groupe Génération Identitaire n'est plus. Un décret de dissolution a été signé par le ministre de l'Intérieur qui y voit, en raison de son organisation, une milice privée qui, proche de groupuscules d'ultra-droite, incite, dit-il, à la haine, à la discrimination ou à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur race et de leur religion. La Suisse et le Liechtenstein ont un nouveau nonce apostolique. Il s'agit de Mgr Martin Krebs, prélat allemand qui a représenté le Saint-Siège en Guinée, au Mali, mais aussi dans le Pacifique. Hier, le pape François a également étendu le mandat de Mgr Marc Miles, qui se renonce au Bénin, mais aussi au Togo voisin. Retour maintenant sur l'Irak où le pape se rendra vendredi pour un voyage déjà qualifié d'historique. Parmi les communautés que François croisera figurent les Yazidis. Cette communauté a été parmi celles qui a le plus souffert de la guerre menée par l'organisation de l'État islamique Daesh. L'ONU a même qualifié de génocide les crimes dont ils ont été victimes. Les djihadistes, en s'emparant de la plaine de Ninive en 2014, ont entrepris l'élimination quasi systématique des hommes et des vieillards. Les garçons étaient formés pour devenir à leur tour des djihadistes oubliant leur identité. Les filles, les femmes étaient réduites à la condition d'esclaves sexuels ou domestiques. Le père Patrick Desbois, président de l'association Yahad Inounoum, vient en aide à cette population qui panse encore ses plaies. Il mène avec des acteurs locaux un projet appelé Back to Life pour réinsérer les victimes, pour recueillir les preuves du génocide. Il revient sur les difficultés pour ces femmes de revenir de l'horreur.
Souvent, ces femmes-là pensent qu'elles sont condamnées. Il faut d'abord qu'elles se refassent. Actuellement, on a des ateliers pour leur apprendre un travail parce que comme elles n'ont plus de mari, plus de frères, il faut qu'elles arrivent à s'en sortir. Certaines femmes se suicident. Elles ont vécu trop d'années sous Daesh et parfois aussi, elles ont eu des grossesses forcées. Mais je dirais que globalement, les femmes ont une force de rebond. Les garçons, c'est autre chose parce qu'ils ont été emmenés dans des camps d'entraînement, ils ont été emmenés dans des écoles islamiques pendant un an et demi, ils ne se souviennent plus de leur langue d'origine. Tel enfant parle le turc, tel enfant parle le russe, tel enfant parle l'anglais parce qu'il était acheté par des Daesh de ces pays-là. Et donc, il y a une réadaptation au langage et aussi à sortir de cette emprise que Daesh avait mise sur eux, car Daesh a cru en la jeunesse depuis le début et a formé des jeunes pour survivre en pensant bien qu'ils allaient perdre la guerre, mais que ces jeunes leur survivraient.
Comment ces femmes sont-elles accueillies par leur communauté?
Ah, avec grande joie et en même temps avec effroi, parce que je me rappelle une maman avait demandé à nous voir, ils avaient retrouvé leur enfant de 9 ans, mais l'enfant se voyait comme Daesh. Donc on l'a interviewé, on l'a filmé pour savoir ce qui s'était passé, et toutes les 5 minutes, il s'arrêtait de parler et criait « Allah Akbar, longue vie à Baghdadi ». Et à la fin, il s'approchait de mon caméraman et il a dit « Donne-moi ton sac, je vais tous vous exploser ». On se rendait compte que cet enfant savait plus qui il était. Et donc pour les parents, c'est un grand drame parce qu'ils l'ont racheté, ils l'ont cherché partout, ils ont tellement la joie de le retrouver. Parfois, il a changé physiquement, il y a 3-4 ans qu'ils ne l'ont pas vu, mais en plus, il est devenu Daesh. Les parents sont à la fois contents, à la fois surpris, mais toujours, toujours contents. Vous vous rendez compte, parfois, ils ont perdu 15-20 personnes dans la famille. Quand ils en retrouvent 1, 2, 3, c'est une grande joie.
À quoi aspirent globalement les Yazidis aujourd'hui ?
Ils aspirent d'abord à retrouver ceux qui sont encore dans les mains de Daesh, parce qu'il y en a encore qui sont en Syrie ou dans d'autres pays et que Daesh n'a jamais voulu relâcher. Donc ils essaient désespérément de les arracher. En plus, ils ne savent pas qui est mort et qui est encore esclave. Mais sinon, tous ceux qui ont pu partir, avoir un visa à l'étranger, sont partis. Ils sont partis en Allemagne, sont partis en Australie, certains sont partis en France, au Canada, ce sont les 3 pays principaux qui les ont accueillis. Et maintenant, ils essaient d'entrevoir leur avenir dans les villages, mais ils ont peur des voisins, parce que beaucoup de villages voisins se sont associés à Daesh, et notamment sont associés aux prises des biens des Yazidis. Donc, aussi bien que mal, nous essayons de les aider à réenvisager leur avenir en Irak, ce qui n'est pas du tout facile parce que la sécurité n'est pas pleine, loin de là.
Interrogé par Xavier Sartre, le père Desbois était ce soir l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain matin à 8h30, heure de Rome. Excellente soirée.